Donc, je suis très content de passer tout de suite la parole à Bruno Carsanti. Oui, oui. Qui connaît bien et la maison, parce qu'il enseigne à l'école des hautes études, et la question du pouvoir spirituel que nous venons d'évoquer, et beaucoup d'autres choses, et qui est presque, je dirais, qui représente ici la tradition sociologique tout entière. Et donc, je te passe la parole, Bruno.
Bon, alors, d'abord, je voudrais dire ma joie, ma reconnaissance, ma gratitude pour avoir été convié à ce moment important de la vie de notre institution aussi, de l'École des hautes études, puisque Pierre Manant a été et reste une très grande figure de cette institution. Et en clôturant, d'une certaine manière, son discours par une conférence sur le savant et le politique, eh bien, évidemment, il nous somme de nous interroger sur son rapport aux sciences sociales, à la science sociale, à celui que Giulio a défini comme l'empereur de la science sociale, à savoir Max Weber, et à sa célèbre conférence. Comment est-ce que Pierre Manant, à la lumière de ce qu'il nous a dit aujourd'hui, formule le problème du savant et du politique à sa manière. Alors, je vais intervenir sur trois points. Trois points assez localisés dans l'exposé et poser des questions sur chacun de ces points. Le premier point, c'est finalement le statut de ce savant par rapport aux politiques la question de savoir si véritablement la science politique telle que tu nous l'as présentée dans ses transformations, mais aussi dans sa stabilité, dans son éternité, en fait, est vraiment la première des sciences humaines, pour reprendre le dernier terme de ton exposé. Donc, mon premier point tournera autour de cette question. Quel savant est Pierre Manant quel rapport aux politiques ce savant conçoit. Deuxième question que je soulèverai, c'est la question du christianisme telle qu'elle intervient dans ton propos. Enfin, j'aimerais pouvoir terminer sur ton diagnostic du présent et de notre présent, cette fois-ci, politique. Donc, sur la question du savant, du genre de savant que tu incarnes, que tu as défendu, que tu défends avec vigueur et conviction. Le problème de ta présentation, me semble-t-il, est celui de savoir si, véritablement, il est arrivé quelque chose d'aussi funeste, on va dire, d'aussi catastrophique dans l'apparition de la science de l'histoire, telle que ton exposé présentait cette fois-ci notre histoire intellectuelle. J'ai trouvé que l'accent était très fortement mis sur l'histoire, plus encore que sur la sociologie, on va dire, et que en rejoignant la question de l'histoire, là, tu nous fais toucher le noyau ou le foyer principal de la dégradation. Alors, cette appréhension de l'histoire, telle que tu nous l'as présentée encore, c'est finalement une conception de l'histoire qui voit en elle une récapitulation des actions déjà faites. L'histoire serait donc, dans cette perspective, l'histoire dont la matière, le matériau sont les acta. Et à cette histoire fait pendant, pour toi, une dégradation parallèle de la philosophie, qui devient philosophie, qui ne sait plus être philosophie pratique, mais qui devient philosophie des droits, tu dis. Hein, des droits et pas... Et d'ailleurs, tu ne dis pas du droit. Hein, tu ne dis pas du droit, tu dis des droits, c'est-à-dire, dans ta description, des actions autorisées. Hein. Donc, des actions déjà faites et des actions autorisées. Et finalement, c'est cette double réalité que le savant moderne, hein, a devant lui comme ce qui doit être connu, qui mérite d'être connu. Alors, je reprends la question des Scythes ou des Spartiates et des Athéniens. D'accord ? Mon problème est le suivant. Dans l'ancienne vision de la science politique, dans l'épistémé politique, le problème est effectivement très bien posé tel que tu l'as posé, c'est-à-dire il est de savoir comment les Athéniens vont percevoir, hein, les Spartiates ou les Scythes, et comment ils se perçoivent eux-mêmes en tant qu'Athéniens. Nous ne sommes plus des Athéniens, tu dis, nous sommes devenus des Spartiates. Et nous sommes devenus des Spartiates précisément parce que nous n'avons plus de rapport qu'à des actas, à des actions déjà faites. Ou plutôt, nous ne voyons les autres, hein, nous ne voyons les autres que comme des choses de la nature, hein, ou que comme des faits. Je ne crois pas que ce soit exact. Je ne crois pas que ce soit exact, et j'aimerais te poser le problème suivant. Hein ? Est-ce qu'il est pour toi arrivé quelque chose à partir du moment où les Européens, on va les appeler comme ça, et plus les Athéniens, hein, se sont posés le problème des trois termes, des Scythes, des Spartiates et d'eux-mêmes ? C'est-à-dire quand ils ont mis en place, finalement, une comparaison entre des formes différentes de société. Et est-ce que pour toi, le fait d'avoir posé la question non simplement de leur rapport à une autre société, mais des rapports de sociétés différentes entre elles, modifie ou ne modifie pas ton diagnostic sur la question des actas ou de la facticité des réalités à analyser. Parce que pour moi, ça la modifie. Ça la modifie substantiellement. Et en fait, ça la modifie sur la question de l'histoire. Je ne crois pas que l'histoire ait été, dans sa promotion moderne, hein, un retour sur les actions passées. Je crois qu'elle a été activée par une interrogation spécifiquement moderne sur ce qui mérite d'être transmis ou ce qui vaut d'être transmis, hein, dans différents types de sociétés. Autrement dit, l'histoire, je vais prendre une phrase durkheimienne, ça ne t'étonnera pas venant de moi, l'histoire a pris un sens clair pour les modernes à partir du moment où la phrase de Durkheim, l'histoire est ce qu'il y a de meilleur en nous, hein, l'histoire est ce qu'il y a de meilleur en nous, a pris un sens pour l'action, hein, a pris un sens pour l'action politique, pour l'action historique. Bon, voilà, alors ça c'est le premier point sur le savant et le politique. Donc, il y a un genre de savant spécifiquement moderne pour moi, qui est le savant de sciences sociales. Je ne sais pas si... Bon, aujourd'hui, je l'appellerais l'historien, d'accord, hein, mais je pense que ça n'est l'historien que s'il est aussi sociologue, hein, qui adopte une forme de raisonnement, une forme d'objectivation de l'action qui ne la réduit pas à un fait. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a un écueil en sciences sociales qu'il faut surmonter, et que pointe très bien la fin de ton exposé, c'est l'assomption par les sciences sociales de la fausse dichotomie weberienne, pour moi, entre faits et valeurs. C'est elle qui nous a trompés sur ce plan. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Bon, j'en viens à la question du christianisme. La question du... Je vais tenir les 10 minutes. J'en viens à la question du christianisme. La question du christianisme, telle que tu l'as abordée aujourd'hui, à mon avis, justement, pointait exactement cette question. La faute que tu imputes au christianisme dans l'exposé d'aujourd'hui, c'est d'avoir introduit un élément corrupteur dans le dispositif des vertus et des motifs humains. Cet élément corrupteur, c'est, je reprends tes termes, hein, c'est celui d'avoir posé ce commandement absolu, infiniment pénétrant et dégradant, dis-tu, de l'amour de l'ennemi. Impossible à assumer politiquement, impossible à traduire socialement. Oui. Ce commandement, dis-tu aussi, est ce qui a impulsé l'histoire comme différence temporelle, c'est-à-dire ce qui a voué à la contingence et à la dégradation historique le dispositif classique lui-même, hein, ce qui a en fait affecté la stabilité du dispositif humain. Bon. Là, ma question porte sur ça va être paradoxal, je vais défendre le christianisme là, sur un point précis. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Je vais défendre le judéo-christianisme sur ce point, et tu vas voir pourquoi. Non, mais tu vas voir pourquoi. Parce que la question est celle de l'introduction de cette autre idée de l'histoire, hein, que celle d'une pure histoire des acta, hein, d'une pure histoire des actions déjà faites, qu'a représenté le monothéisme. Alors, ma question, là, elle porte là-dessus. Comment est-ce que tu distingues dans le christianisme entre la différence des temps, hein, qui implique une histoire, on va dire, ouverte, dans laquelle une délibération est encore pensable, hein, d'une différence des temps où l'histoire n'est que histoire des actions déjà faites. Voilà. Ça, c'est ma deuxième question. Oui, je vais répéter moi-même. Comment est-ce que tu différencies, et est-ce que tu différencies dans le christianisme, et je dirais dans le monothéisme, là, parce que je pense que c'est important de comprendre que le prophétisme juif est impliqué dans cette dynamique, est-ce que tu différencies, donc, dans le complexe judéo-chrétien, une différence des temps, hein, qui porte une idée de l'histoire ouverte, je vais l'appeler une histoire des agendas, en fait, hein, d'une histoire des acta. Voilà, c'est simple, là. Hein. Dernière question. Nous refusons de choisir, dis-tu, nous ne pouvons plus choisir, et cela ne peut pas se prolonger indéfiniment. Ma question, elle est là de très naïve. Qu'est-ce qui est véritablement intenable là-dedans? Qu'est-ce qui est intenable? Et au fond, tu vois, c'est une question presque Comtienne. Je sais que c'est pas un de tes auteurs de prédilection, tu sais que c'est un des miens. Mais Comte disait que l'interrègne peut durer très, très, très longtemps. Hein, qu'est-ce qui fait que, pour toi, l'interrègne est sur le point de cesser ou doit cesser, ou en tout cas, est-ce que c'est un jugement sur ce qu'il faut faire ou sur ce qui est imminent historiquement, hein, ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est-à-dire que ça va nécessairement changer. Voilà.
Je vais répondre rapidement. J'ai déjà pris beaucoup de temps et il ne faut pas abuser. Le savant, l'histoire a pris un sens pour l'action. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les historiens anciens faisaient de l'histoire, si on veut, mais ils racontaient une grande action. Qui c'était, bon, l'exemple canonique, c'est évidemment Thucydide qui raconte là, cette très grande action qui est la guerre du Péloponnèse. Bon. Et en ce sens, donc, la succession est à l'intérieur de l'homme agissant, si je peux dire. L'histoire nouvelle, c'est l'inverse. C'est l'homme agissant qui est dans, à l'intérieur d'une succession et qui regarde une succession. Et il cherche, en un certain sens, la règle de son action dans, dans la succession. Je veux dire, il y a des formes de vie incompatibles, enfin, à la fois différentes et en un sens incompatibles, qui se sont succédées, le paganisme, le christianisme, temps moderne. On n'est pas païen, on n'est plus païen, on n'est plus vraiment chrétien, et le projet moderne présente quelques difficultés. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne choisit pas? On fait en sorte que la succession nous donne
le sens.
Ouais. Et le sens, alors, évidemment, c'est le progrès. Il faut postuler que du paganisme au christianisme, du christianisme au temps moderne, ou à la démocratie moderne, il y a eu un progrès. C'est d'une certaine façon, c'est ça ce que j'appelle donner pouvoir aux acta par refus de choisir. Alors, dans le cas du christianisme, je n'ai pas critiqué le christianisme. J'ai essayé de décrire le problème qui posait, de le décrire de la façon la plus aiguë, avec l'aide de ceux qui l'ont posé ainsi, c'est-à-dire de Machiavel à Nietzsche, c'est-à-dire une demande contre nature adressée aux hommes, et qui malgré tout acquiert sur les hommes un pouvoir incompréhensible. Donc c'est cela que j'ai poursuivi simplement. Alors précisément, judéo-christianisme, tu sais bien que le problème est dans le tiré. Et précisément, cette histoire, si on veut qu'elle ait du sens, ne peut pas être racontée comme une histoire. Hein ? L'expérience récente, si on peut en tirer quelque chose, si j'ose dire, de bon, et pour les chrétiens, de se rendre compte que leur rapport au judaïsme n'est pas une chose acta, n'est pas une res acta. C'est une res agenda, c'est une chose à faire. Le sens du rapport du christianisme au judaïsme n'est pas clos. Les chrétiens ont découvert cela. Ont découvert que, d'une certaine façon, le sens de leur histoire passée, le sens de leur rapport au judaïsme dépend de la manière dont, aujourd'hui, ils sont capables ou pas de se rapporter de manière sensé à cette question. Alors je ne dis pas si du côté des juifs, si j'ose dire, la même démarche paraît à faire. Voilà, c'est une question. Eh bien, je crois que aujourd'hui, la question du rapport du judaïsme et du christianisme demande des grands historiens, de grands philologues, de grands archéologues, de grands savants dans les choses passées, mais ils demandent aussi de savoir comment ce rapport est aujourd'hui actif et comment nous l'activons. Voilà. Parce que ce rapport n'est pas passé. Voilà. Alors, la dernière question, l'intérêt peut durer très longtemps, il peut durer très peu, on ne sait pas. Simplement, pourquoi ? C'est que, tout simplement, notre religion humanitaire, enfin, ce que j'appelle la religion européenne, n'a pas de principe spirituel propre, à la différence du christianisme, et elle n'a pas de force propre, à la différence d'une communauté politique. Donc ça rend cet ensemble très vulnérable.
Merci beaucoup. Et je passe la parole au deuxième intervenant, Daniel Mahoney, dont les vertus mériteraient d'être présentées toutes, dans le fait qu'il est un très cher ami, pas seulement mon cher ami, mais qu'il est un cher ami de l'Europe et de Pierre Manon. Il représente un type de professeur américain qui n'est pas, qui devient rare et qui est ici représenté aussi par les professeurs Harvey Mansfield et Ralph Alcock que nous remercions. Et une autre vertu, c'est qu'il a vraiment aidé et soutenu ses colloques, l'organisation de ses colloques. Et donc, je passe la parole à Daniel Mahoney qui enseigne à Assumption College.
Thank you very much. I'm going to speak in English. I just got the paper 2 days ago, so I was able to read it twice and listen to it today. So you're going to hear some free thoughts on the basis of the first readings of Pierre's paper. I usually agree with everything Pierre writes and says, but not today. I agree with almost everything he wrote and said, so that gives me something to say. I also was very impressed reading this paper because one sees what Pierre has been doing the last 2 years with his seminar on human action. This is a wonderfully thoughtful, discerning, provocative reflection on the science of human action and human deliberation. And I think the parts of the paper, the beginning and the end, that lay out the modern series of bifurcations, the point of view of those who act on the one side and those who look at the things that cannot be changed, that are not objects of deliberation. In other words, the split between the savant et politique, as Pierre articulates it in this paper, is very powerful and, to my mind, very convincing. I was also struck by a point which is also thematized in La Métamorphose de la Cité, and that is the paradox of modernity as Manon articulates it. On the one hand, the moderns were capable of great acts, audacious acts, founding a new civilization, establishing the West lead in the world, establishing a regime of religious and civil liberty. At the same time, they can't give an account of those acts, and they more and more thematize a science that refuses to have a place for the science of action or the science of deliberation. And I think those thoughts are worthy of considered reflection. I also see in this paper a kind of deepening of a very old theme in Pierre Manon's work, which is an old nemesis, namely the science of history, and the way he formulates the science of history as a kind of self-conscious and deliberate negation of human action or the science of action is, I think, adds another thread, another layer to Pierre's critique of the historical point of view, not political history, which he has turned to with great interest and penetration in recent years, but to the historical point of view that is ultimately incompatible with the science of action. Now, my first first remarks deal with deliberation about means. I think one of the most powerful facts of the paper is defense and articulation of Aristotle's view that deliberation is about means. Pierre says that our common human nature is established by the fact that rather than having an infinite variety of mers or an infinite variety of values, the fact is there are a limited number of practical virtues that are revealed when we deliberate about human action, when we deliberate about means. And throughout the paper, Pierre refers in a wonderfully old-fashioned way to the four cardinal virtues. Joseph Pieper has a book called The Four Cardinal Virtues. You don't normally hear that talk at Haute Etude. It's good to hear retrograde talk about courage, justice, moderation, and prudence. Many of the formulations in the middle section of the paper were, I think, very interesting and revealing. Values are somehow infinite, that they are, that we moderns are too, late moderns are too preoccupied with images, something imaginary almost, as opposed to, and not enough with character, with virtues, with the means to achieve human ends. So all of that I found completely convincing. And yet I'm perplexed, and I'm perplexed for the same reason I'm perplexed when I read the Nicomachean Ethics on deliberation and means and ends. It seems to me that one needs to say more about deliberation on ends. It seems to me that the ends and purposes of human action and human freedom are not just values or images, and that a certain kind of contemporary nihilism is rooted in the self-conscious inability of modern man to say anything meaningful about the ends and purposes of human freedom. So I wanted to hear more about about this whole question of theory and practice, ends and means, how the biggies, you know, what is the source of human ends once we recognize the inadequacy of value speech, once we recognize the unhelpfulness of an imaginary postulation of 1,000 human purposes, where do we get our ends? Do they arise in some reflection on pre-theoretical life, you know, the ability to affirm the superiority of civilization to barbarism, or a moral life to a immoral life, or, you know, it seems to me that Aristotle presupposes something like a pre-theoretical phenomenology, what the opinions people have about the good life are not arbitrary, but they're also not the product of philosophizing. So if you could say more about that, I would be very grateful. Now I want to say a few critical words about your treatment of Christianity. It seems to me that I wouldn't quarrel at all with your point that there is some connection between Christianity and this disactivation of human energies, or disactivation of the human capacity for action. On the other hand, it also is the case that Christianity for a long time kept alive the tradition of the natural virtues. It was Christianity that defended and articulated the four cardinal virtues as the necessary starting point and accompaniment of the very difficult and demanding, as you point out, supernatural virtues. And you say at one point that, you know, well, Christians were inevitably corrupted by their, you know, engagement in politics, or or co-opted by the natural order. But very early on, the church fathers saw the necessity of what they called the noble risk with Greek philosophy. The very doctrines of the church are articulated in terms of the language of nature and grace. And it seems to me even the creedal affirmations of the church are unthinkable without the category of nature, you know, the Christological formulations of Nicaea and Chalcedon and elsewhere, you know, are just unthinkable without a framework of nature and grace. And that framework of nature and grace also includes, it came to include with Augustine and Thomas, some accommodation to the political virtues as they had been, in Thomas's case, as they had been formulated by Aristotle. So, in other words, I would make a firmer distinction between Christianity and the religion of humanity, or Christianity and humanitarianism, that humanitarianism is a corruption of Christianity, but humanitarianism comes along very late in the game. Christianity managed for an awful long time to sustain, it may be a somewhat corrupt involvement in the world, but it didn't confuse its mission with the establishment of perfect felicity in this world. So if you could say a word about that, about the, you know, I put it very simply, I just think Christianity supposes a tension-ridden accommodation to what I would call the natural virtues. And I thought your paper overstated the anti-natural and anti-political emphasis of Christianity. And Christianity is a trans-political religion, so it doesn't, Christ didn't come to establish a political philosophy. He came to promote the salvation of souls. I liked your dig at Carl Schmitt and the very idea of political theology. I thought that was absolutely unmarked. And just on the Christianity issue, about your comments about the Reformation are very good, but I wondered if we really had to wait to the Reformation in order to gain this paradoxical engagement of Christianity in the political association, and that as my remarks suggest, that for an awful long time there had been some kind of theoretical and practical accommodation between Christianity and the political virtues. And your comments on contemporary Europe, the necessity to define a community of deliberation, I think are exceedingly elegant and eloquent, and speak very much to the heart of the European question today. I'm going to leave it at that, my sort of free floating reflections on this wonderful paper. Thank you.
Donc, sur la délibération, il y a une délibération sur les finalités, mais ce n'est pas la même. La délibération pour l'action suppose que les finalités sont déterminées. Alors, bien sûr, par exemple, on peut se demander si on va mener une vie dans le monde ou une vie hors du monde, que ce soit chez les chrétiens ou chez les Indiens ou les Hindous. Là, ça, c'est une délibération portant sur les fins de la vie humaine, mais c'est une délibération qui certainement a engage des actions, mais qui, tant qu'elle dure comme délibération, appartient à la réflexion générale sur la vie humaine. Et donc cette délibération sur les finalités n'est pas encore proprement une délibération sur l'action. Voilà. Quand Pascal s'interroge, ou interroge, ou fait parler, institue ce dialogue entre le croyant et celui qui cherche ou celui qui ne cherche pas, c'est un dialogue, comment dire, théorique ou philosophique, tant que la personne n'a pas choisi, elle n'est pas encore dans la délibération pratique. Donc j'admets que ma lecture d'Aristote ici est un peu rigide, mais c'est aussi pour aller contre une tendance exagérée à imaginer que l'on délibère facilement sur les fins. Non, on délibère très, très rarement sur les fins, et encore plus rarement, on délibère sérieusement sur les fins. Donc je crois que il est important de mettre au premier plan de la philosophie pratique la centralité de la réflexion sur les moyens, de la délibération sur les moyens. Alors, le christianisme, les vertus cardinales, bien sûr, tu as raison. Le christianisme, non seulement n'a pas été l'ennemi des vertus cardinales, mais d'une certaine façon, il a été le conservatoire des vertus cardinales pendant des siècles, puisque la philosophie morale d'Aristote a été conservée, pour ainsi dire, à certaines époques, exclusivement dans le contexte chrétien et spécialement catholique. Donc, bien entendu, l'analyse de l'action humaine que Aristote a développée a été reçue, j'allais dire entièrement par l'Église. Le seul problème, c'est que l'action chrétienne se déroule aussi dans un autre élément que la cité. Et que les règles que suivent les vertus cardinales, disons là, le dosage des vertus, le réglage des vertus par la prudence, est évidemment énormément compliqué quand, disons, à l'expérience civique et aux vertus civiques ordinaires s'ajoute la considération des demandes chrétiennes. Encore une fois, le courage, la justice, la tempérance, la prudence sont très différentes. Enfin, en tout cas, rencontrent une incertitude que ne rencontre pas celui qui n'est pas exposé à la demande chrétienne. Et par exemple, la prudence. Vertu suprême de l'ordre politique. Mais que devient la prudence politique dans la perspective des demandes chrétiennes? Sauver sa vie, la protéger par la guerre, par la défense, ou bien l'exposer au martyr, voilà une question qui ne se posait pas à Aristote. Et ma critique du christianisme n'est pas ma critique, c'était simplement un condensé de cette critique qui a traversé, qui depuis Cels jusqu'à Nietzsche aujourd'hui, et tout au long du christianisme, a reproché aux chrétiens d'empêcher le fonctionnement de normal des opérations de l'action humaine. Bon, lorsque Machiavel dit, Rousseau dira à peu près la même chose. Le christianisme nous condamne à la tyrannie parce que pour les chrétiens, en tout cas pour les ordres mendiants qu'il attaque, ils nous disent qu'il est mal de dire du mal du mal. Donc le christianisme, dans ses effets, si j'ose dire effectifs, tente à troubler, désarmer, affaiblir certaines vertus essentielles à l'ordre politique, ou en tout cas, ces effets ont été suffisamment perceptibles, ou ce type d'effet a été suffisamment perceptible pour que cette critique du christianisme devienne un des facteurs majeurs de l'histoire européenne et de cette immense critique du théologico-politique chrétien sur lequel repose l'ordre politique moderne. Donc, voilà. On peut dire que ce n'est pas le vrai christianisme. On peut dire que si on ouvre saint Thomas, on a une harmonie admirable entre les vertus naturelles et les vertus surnaturelles et les vertus théologales. Tout ça est tout à fait défendable, mais encore une fois, la question est celle des actions réelles dans l'histoire, des effets réels, et je n'ai fait que, en quelque sorte, prendre au sérieux cet aspect absolument central de l'expérience des siècles modernes, précisément. En en préservant l'ambiguïté. Simplement, il y a une exigence chrétienne extrêmement mystérieuse, dont les effets sont aussi très difficiles à évaluer, parce que, bien entendu, je n'imagine pas que le jugement de Nietzsche ou de Machiavel est nécessairement la vérité ultime sur cette question. Les effets sont mystérieux à évaluer et, disons, la permanence étonnante d'une religion aussi peu complaisante pour les hommes est extrêmement étonnante parce que il est, je crois, aisé de montrer que le christianisme, dans ses exigences extrêmes, ne laisse pas aux hommes, ou tente à ôter aux hommes, certains des lieux de satisfaction que les autres religions monothéistes, pour employer ce langage très abstrait, leur laisser ou même leur donner. Voilà. J'ai dit que je répondrai brièvement.
D'ailleurs, on pourrait dire que cette incertitude dans laquelle le christianisme place l'homme d'action explique du moins en partie les pathos de Max Weber quand il souligne la tension entre les discours sur la montagne, qui n'est pas un exemple pris par hasard, et l'homme d'action. Pour une fois, on peut défendre Max Weber d'ici.
La thèse de Weber est vérifiée dans un seul cas. Et c'est le cas du sermon sur la montagne.
La transition, en tout cas, est parfaite parce que je passe la parole à Philippe Reynaud, qui est un grand spécialiste de Max Weber, parmi les autres choses, et qui enseigne à Paris 2. Je me borne juste un trait, parce qu'il n'a pas besoin de présentation, comme on dit, parce qu'il enseigne dans cette école, parce que vous les connaissez. Un trait qui est assez fidèle à la visée que nous avions choisie avec, si on peut choisir une visée, avec Jean-Vincent pour ses colloques, qui a été respecté. C'est-à-dire, j'ai lu et assisté à beaucoup de confrontations pendant les années entre Philippe Reynaud et Pierre Manon, qui ont été toutes vigoureuses, amicales, aussi amicales que vigoureuses, aussi vigoureuses qu'amicales. Je tiens à souligner parce que, après tout, à l'heure où, je ne veux pas exagérer les traits, les diagnostics de notre temps, mais à l'heure où on fait semblant de discuter la substance des livres, même ceux qui divisent sur la substance les auteurs, et alors même que les esprits, il suffit très peu aux esprits, par contre, souvent les moindres vanités pour se séparer, leur confrontation témoigne vraiment de la conférence à la montagne. C'est un exemple que j'ai toujours trouvé admirable. J'espère donc qu'aujourd'hui, ils nous offriront pour l'énième fois les témoignages de leur confrontation et de ceux qu'ils ne partagent pas.
Écoutez, comme dit l'héroïne du Bonheur et dans le Pré, vous avez mis la barre haut. Ça va être difficile de tenir les promesses que vous me prêtez. D'autant plus que je me suis demandé, en écoutant l'annonce du débat que vous avez faite tout à l'heure, si je devais me ranger parmi les philosophes ou parmi les sociologues. Puisque vous avez dit que c'était une discussion, entre autres, entre la philosophie et la sociologie qui se prolonge. Alors bon, en général, on me considère plutôt comme philosophe, mais après tout, je suis professionnellement professeur de sciences politiques, et je voudrais dire un mot de cette question de la science politique ancienne et moderne. Et pour discuter le très beau texte de Pierre, je m'appuierai également sur deux autres de ses contributions récentes, qui sont toutes deux dans le dernier numéro de commentaires. L'une qui s'appelle « La gouvernance, un machiavélisme sans virtue », et l'autre qui est un compte-rendu du livre d'Heinrich Meyer, la leçon de Carl Schmitt. Ce qui m'a frappé en lisant Pierre et en l'écoutant, c'est le fait remarquable qu'il a une compréhension parfaite de quelque chose dont on pourrait croire qu'il ne le connaît pas très bien. Qui est
pas au bout
de la pensée. Si, parce que, écoute, sauf erreur de ma part, et comme les nuits ne sont pas finies, je ne pense pas que tu lises beaucoup de sciences politiques contemporaines. Bon.
D'accord.
Voilà. Et tu as suffisamment de responsabilités pour ne pas être obligé de siéger au CNU dans cette discipline et des choses comme ça. Or, je peux dire que tu nous donnes une vision particulièrement lucide et éclairante de la situation de la science politique la plus immédiatement contemporaine et en relation avec notre situation de citoyen à l'époque de la mondialisation et de ce qu'il est de plus en plus difficile d'appeler la construction européenne, puisqu'on ne voit pas qui construit aujourd'hui quoi que ce soit. Alors d'un côté, en effet, dans ce que tu nous dis, on a une science des choses faites, qui réduit la science politique à la sociologie parce qu'elle réduit la politique à des déterminants sociaux et culturels, à la manière dont Vincent Descombes avait décrit de manière très drôle hier. Et de l'autre, on a une philosophie des droits, ça je confirme, qui est construite dans l'entière ignorance de tous les agendas et de toute la combinaison moyen-fin qui devrait constituer le cadre de la philosophie pratique. Alors précisons autrement, il y a d'un côté aujourd'hui une sociologie politique qui démasque l'imposture de la représentation en montrant que la vérité de la démocratie, c'est la domination et c'est la domination sociale. Et de l'autre, on a une philosophie politique normative qui définit des droits qu'il faut toujours défendre ou encore conquérir. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on articule la distinction entre les faits et les valeurs. Il y a des sociologues critiques qui montrent que le monde est mauvais et des philosophes politiques qui montrent qu'il faut l'améliorer en soutenant les luttes sociales. Et entre les deux, il y a un troisième groupe de disciplines qui a de plus en plus d'importance parce qu'il apparaît comme une sorte de médiation, c'est ce qu'on appelle les politiques publiques, repose en général, c'est une sorte de discours ventriloque de l'administration, enfin pas toujours, mais très souvent, qui dans son modèle dominant, le modèle dominant c'est le modèle de ce qu'on appelle le past dependence, c'est-à-dire le fait que l'idée est aussi profonde que simple, c'est que quand une administration a engagé des moyens dans un programme, c'est très difficile de l'arrêter. C'est ce qui fait que les politiques mises en place par une majorité survivent au changement de majorité, etc. Et ça fait énormément de travaux passionnants. Vous pouvez appliquer ça à la SNCF, à l'éducation nationale, à la politique de santé publique, etc. Et c'est parfaitement vrai. C'est le mort saisit le vif, enfin tout ça est très vrai. Et ça complète d'ailleurs les deux choses, parce que ça permet de gloser interminablement sur l'impuissance publique et sur les illusions de la gouvernance. C'est-à-dire, ça montre que la politique n'est rien. Par exemple, alors, quand on articule avec la sociologie politique, par exemple, vous pouvez faire des travaux sur l'alternance qui montrent que les alternances ne changent jamais rien. Et que la politique est donc un théâtre d'ombre, mais ça ne doit pas empêcher par ailleurs de lutter pour les droits. Qui sont d'ailleurs sans arrêt mises en cause, etc. Alors, je trouve que ça correspond à merveille, il me semble, à la situation que tu décris, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi, ce que tu décris, c'est la modernité, nous n'avons jamais été aussi modernes qu'aujourd'hui. Alors, c'est en général ce qu'on pense à chaque moment de l'histoire, d'ailleurs, c'est, comme disait Nicole dans le Bourgeois Gentilhomme, les anciens sont les anciens, nous sommes les gens de maintenant. Mais maintenant, nous avons de bonnes raisons de penser que nous sommes vraiment modernes. Et dans ce que tu montres, il y a une sorte de... Ce que tu montres très bien, c'est comment la... Enfin, ce que tu permets de comprendre, plutôt, c'est comment, dans notre système, la radicalité des droits fonctionne comme une sorte de double de la gouvernance néolibérale qu'en même temps, elle prétend déconstruire. Alors si on prolongeait l'analyse institutionnelle, on pourrait montrer que c'est la même chose dans les relations entre les sciences politiques, la science politique et le droit public. Autrefois, la science politique première manière, celle que je vais défendre, complétait l'analyse juridique de la distribution des pouvoirs par l'analyse des jeux politiques. C'est d'ailleurs ce que Montesquieu fait déjà dans l'esprit des lois. Tu l'avais admirablement montré dans ton livre sur l'histoire du libéralisme. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Aujourd'hui, le droit public se reconstruit autour de la constitution normative, c'est-à-dire des déclarations des droits, des blocs de constitutionnalité. Et la science politique nouvelle, elle aussi désinvestit des institutions. On a d'un côté l'idéalisme des formes et le matérialisme des forces. Et évidemment, c'est ce genre de situation spirituelle, intellectuelle et politique dans laquelle le discours aristotélicien, surtout quand il est manié avec virtuosité et profondeur, est particulièrement opérant ou éclairant. Et c'est cela, je crois, qu'on trouve dans les deux textes que tu as, enfin, la présentation que tu as faite aujourd'hui, les deux textes de commentaires, qui repose sur un geste classique qui est commun, si je peux me permettre, à toutes les formes du néo-aristotélisme. Mais le néo-aristotélisme, c'est un art simple et tout entier d'exécution. Et tout est dans la manière de faire. Mais enfin, il y a toujours, je crois, trois choses qui sont impliquées. Il y a d'abord le jeu de la vertu de prudence, qui est une vertu pratique, mais intellectuelle aussi. Enfin, c'est compliqué. La vertu de prudence contre l'illusion de la certitude ou de la recherche de la certitude qui est constitutive de la modernité. Alors, en l'occurrence, le rôle de la modernité est joué chez toi, non pas par Descartes, pour lequel, en général, tu n'as pas beaucoup d'estime, mais pour Machiavel. Mais je crois que la structure de l'argumentation est quand même la même. C'est d'autant plus frappant qu'avec des intentions politiques tout à fait différentes. Par exemple, ça pourrait être rapproché de la démarche de Maritain dans les Trois Réformateurs. C'est là, il y a une logique profonde de l'aristotélisme et de l'aristotélisme comme élément de moyen de critique de la modernité. Dans ce dispositif, la réhabilitation de la prudence sert d'ailleurs toujours à critiquer la modernité sur les deux fronts qui sont à la fois le front sublime et le front de l'impuissance ou même de l'immoralité ou du cynisme. Alors, c'est anticipé par Montaigne, qui pourtant, d'après toi, n'est pas aristotélicien, c'est les pensées supracélestes et les mœurs souterraines. On peut aussi formuler ça de la manière de Kant, avec une formule à mes yeux sommaire et trop célèbre de Peggy sur les Kantiens. Mais le moyen de donner de la force à tout ça, c'est bien le fait que la prudence définit une voie médiane entre la sublimité de la morale, de l'intention pure ou de l'impératif catégorique ou tout ce qu'on voudra, et le réalisme plat qui se traduit par exemple par la montée des philosophies de l'histoire, ou aujourd'hui dans la politique contemporaine, par la combinaison entre la sublimité des fins ou des droits et la vacuité des moyens qui sont mis en œuvre. Enfin, troisième caractère, je viens de l'évoquer d'ailleurs, c'est la mise en relation de cette structure moderne avec les mots de la modernité tels qu'on les perçoit à un moment donné. Alors, c'est ce qui fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui fait la force particulière du propos, c'est que c'est très adapté au monde présent. C'est en même temps pas forcément le plus fort philosophiquement, parce que le propre du présent, c'est que ça dure pas longtemps, et que d'autre part, la même structure, je pourrais le montrer facilement, a été utilisée avec autant de succès dans des circonstances très différentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, la réhabilitation de la prudence et de l'aristotélisme permet de faire comprendre la fausse sublimité de la construction européenne, l'illusion du déclin de la souveraineté, l'effacement du citoyen, etc. Autrefois, ça permettait de faire comprendre l'orgueil intrinsèque de l'État-nation, l'erreur de la théorie de la souveraineté, les abominations de la Révolution française. C'est quelque chose qui est très efficace, mais peut-être un peu trop, du moins à mon gré. Alors, comme je m'aperçois que je parle déjà depuis bientôt 10 minutes et que je n'ai même pas commencé mon topo, je vais proposer très brièvement les questions que je voulais développer, qui sont quand même au nombre de trois. Mais on va aller aussi vite que possible. Là, la première porterait sur la manière dont tu présentes la doctrine politique d'Aristote, que je trouve très vraie comme présentation de la théorie de l'action d'Aristote, mais pas comme présentation de la politique d'Aristote. Parce que c'est peut-être parce que, comme tu le disais hier, pour toi, le modèle du politique, comme pour le sinistre Rousseau, c'était l'époque où, dans le monde ancien, là, les gens étaient libres parce qu'ils avaient des esclaves, etc. Et tu te places du point de vue du gouvernant. Bon. Moi, j'ai l'impression que le modèle que tu présentes, c'est un modèle qui est plutôt le modèle de l'autorité royale, ou de l'autorité du stratège, ou de l'autorité du législateur, peut-être. Mais ce n'est pas tellement celui du citoyen. Et c'est d'ailleurs pour ça que, là, dans ton modèle, là, tu l'as dit tout à l'heure, la délibération concerne d'abord les moyens plutôt que les fins. Moi, je trouve que ce qui fait le charme de la politique d'Aristote, telle que je la lis, c'est plutôt le fait que dans la cité, on délibère sur la diversité des biens. C'est la, par exemple, la démocratie, etc. Et c'est ça qui fait d'ailleurs l'intérêt de la... Alors je trouve que c'est un peu curieux, mais ça n'empêche pas que c'est très fort. Pour prendre un exemple qui est trop classique, mais donc qui est bien connu et donc méconnu, si on prend un très bel acte politique, comme par exemple l'appel du 18 juin, je continue à trouver un bel acte politique, contrairement à ce qui était suggéré ce matin, je trouve que ton analyse s'applique parfaitement là. C'est-à-dire que ce qui fait la grandeur de cet acte, c'est pas la sublimité des buts, c'est la combinaison des buts et des moyens. C'est le fait que le point de départ, c'est pas qu'il faut sauver l'honneur, etc., c'est que la guerre n'est pas finie. Et c'est là que réside la grandeur. Donc je suis d'accord avec la présentation de la théorie de l'action, mais pas tout à fait avec la présentation de la politique. Alors ce qui me conduit au deuxième point, c'est que je crois que le point essentiel de la politique aristotélicienne, c'est le fait que le point de départ, c'est la diversité des biens. Et si c'est la diversité des biens, c'est précisément ça qui ne peut plus être le point de départ, pour des raisons qui seraient trop longues de développer, mais qu'il est plus difficile d'avoir comme point de départ dans le monde moderne. Pour des raisons que tu connais mieux que personne et auxquelles d'ailleurs tu as fait allusion, c'est que, pour parler simplement, c'est la faute du christianisme. Mais pas pour les raisons dont on a discuté jusqu'ici, mais simplement parce que, comme tu l'as montré dans divers textes, il a produit d'une part le conflit théologico-politique tel que tu le décris dans l'histoire du libéralisme, et surtout il a produit les guerres de religion. Qui ont fait qu'à partir d'un certain moment, il était très difficile de fonder la politique sur un accord, même négocié ou délibéré, sur la pluralité des biens, puisqu'il y avait un bien ou une classe de biens ou une interprétation du bien qui imposait qu'on extermine les autres, ou au moins qu'on les élimine. Alors c'est pour ça que les modernes, à leur grand regret, enfin, pour moi, en tout cas, ne peuvent pas être aristotéliciens, parce que c'est pas parce qu'ils veulent absolument quelque chose de solide, parce qu'ils n'auraient pas la vertu de prudence et qu'ils croiraient à la certitude, c'est parce que ça marche pas. Et donc, il a fallu construire l'État moderne, et je pense que c'est le point de départ de toute cette histoire qui conduit, en effet, par la suite, à qui produit un changement très considérable, qui est le changement impliqué par tout ça de la définition de la loi. La loi, autrefois, c'était le moyen de conduire les hommes à la vertu, au bonheur, etc. Maintenant, c'est le moyen d'assurer la coexistence des libertés. Et c'est pour ça que l'auteur de référence, c'est pas Machiavel, c'est Hobbes, et que le point de départ de tout le monde, c'est celui-là, ce qui fait qu'il y a une histoire de la modernité qui est à la fois une histoire du scepticisme moral, une histoire de l'autonomie, mais et une histoire de la distinction entre la loi et le bien. Alors il faudrait faire un sort particulier à Kant, mais ça nous entraînerait trop loin. Et je vois le regard inquiet de Giulio qui devrait être inquiet. Alors j'en viens tout de suite au dernier point, mais je voudrais dire en deux minutes, c'est pourquoi la science politique contemporaine, et ce que je disais tout à l'heure, mais la science politique, c'est pas si mal. Et je parle de la science politique moderne, celle qui ne repose pas uniquement sur la lecture d'Aristote. Et ça s'est formé de deux manières. Ce qui s'est formé au départ, ce n'est pas la science politique, c'est les sciences politiques. Les sciences politiques, c'est l'équivalent de ce que, dans les universités américaines, on appelle pas political science, mais government. C'est-à-dire, c'était l'ensemble des disciplines que les gentlemen devaient connaître pour devenir citoyens et de préférence pour devenir gouvernants. Et je trouve que c'est un ensemble de sciences dont le caractère d'utile à la pratique n'est pas douteux, y compris quand c'est historique ou quand c'est sociologique. Parce que, par exemple, bon, tu disais tout à l'heure, les Montesquieu et Montaigne sont des polissons, c'est pour ça qu'ils racontent des histoires salaces sur la diversité des mœurs. Alors, je remarquerai d'abord, c'est pas les premiers, Hérodote en a fait autant, et même plus. Oui, mais c'est un grec. Enfin, grec de chez grec, si j'ose dire. Et alors évidemment, il écrit pas, il écrit en ionien, pas en attique, mais enfin, on arrive quand même à le lire, enfin plus ou moins. Et surtout, c'est des savoirs très utiles, c'est des savoirs impériaux. C'est des savoirs, d'ailleurs, moi je ne sais pas comment ça va se régler l'affaire d'Afghanistan, mais je pense que si les militaires américains connaissaient un peu mieux la société où ils étaient allés, ça n'aurait pas fait plus de mal pour faire la guerre. Mais enfin, bon, je me trompe peut-être que je ne suis pas aristotélicien. Et d'autre part, il y a quelque chose qui s'est formé aussi, qui s'est appelé la science politique, qui n'est pas exactement de la sociologie, qui s'est occupé de quelque chose de limité, parce que les disciplines préexistantes, c'est-à-dire la philosophie, l'histoire, le droit, etc., ne répondaient pas à un certain nombre de choses. Et ça s'est intéressé à un certain nombre d'objets qui sont liés à la démocratie moderne, pour l'essentiel, c'est-à-dire les élections, les partis politiques, le lien entre les mécanismes de la séparation, de la distribution des pouvoirs et les rapports de force politiques, etc. Et là, il y a un savoir, je trouve, très précieux qui s'est constitué, surtout d'ailleurs aux États-Unis, avec des grands personnages comme Angus Campbell, comme Sundquist, et qui font encore plus de savoir extrêmement utile que même d'ailleurs ceux qui ont été formés par Léo Strauss, comme notre ami Harvey Mansfield, il leur arrive de mobiliser ça. Par exemple, ils se souviennent de Harvey Mansfield qui se demande si les victoires électorales de Reagan et des Républicains constituent ou non un réalignement électoral. Réalignement électoral, ce n'est pas un concept aristotélicien, mais c'est bien commode. Il y a des choses qui sont bien pratiques et c'est pas. C'est un savoir modeste, mais pas entièrement absurde, et dans lequel, effectivement, il y a un certain rapport avec la sociologie. C'est qu'en effet, comme les gens se demandent pas comment les gouvernants doivent organiser la guerre, ils se demandent pourquoi les gens votent pour qui ils votent. Et il se trouve que dans les raisons pour lesquelles les gens votent pour ceci ou cela, il y a des choses très plates, qui sont des choses très plates sociologiques, qui correspondent au fait que malgré tout, il est pas faux que comme disait l'autre, que plusieurs choses gouvernent les hommes, et que pour le coup, pour finir, plusieurs choses gouvernent la politique. Et c'est pour ça que la science politique, même si elle n'est pas la sociologie, ne peut pas entièrement s'en séparer. Merci.
Très difficile de te répondre dans la mesure où les points d'accord et les points de désaccord sont tu les as artistement mêlés. Et donc au moment où j'ai l'impression d'être en accord, la phrase suivante m'indique que je suis en désaccord et inversement. Donc alors sur le troisième point, il n'y a pas de désaccord possible. Qu'il y ait une science des procédures électorales lorsqu'il y a des élections et qu'il n'en ait pas quand il n'y a pas ce genre d'élection, ce sera accordé. Non.
Ça va mieux en le disant quand même.
Comment dire, on peut quand même accorder que je n'entretiens pas des idées absurdes. Simplement absurde. Bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis Aristote. Donc, bien sûr, il y a des choses que l'on sait sur des sociétés ignorées d'Aristote, et c'est un savoir valide et utile, bien sûr. Le point unique était cette question de la forme de la vie pratique. Je n'y reviens pas. Mais donc, c'est quelque chose de très important, mais de très spécifique. Alors. Bon, sur la délibération, tu dis, là, sur Aristote, un mot quand même, tu dis, tu n'y reconnais pas tellement la cité grecque, ça vaut surtout pour l'autorité royale, le discours du 18 juin. Je ne crois pas, parce que, bon, d'abord, Aristote explique bien, il ne parle pas de l'autorité royale, il parle bien de la prudence comme vertu des citoyens, et en particulier, comme tu sais aussi bien que moi, comme prudence du citoyen en tant qu'il commande, comme vertu éminente du citoyen en tant qu'il commande, Parce que celui qui est commandé n'a pas besoin de prudence. Celui qui est commandé a besoin de l'opinion droite. Le bon citoyen obéit à ses prudents magistrats. Voilà l'ordre aristotélicien. Donc, cette vertu de prudence appartient vraiment à la cité grecque, mais effectivement, elle appartient aussi au monde de l'autorité royale et à la nation moderne. Un point en effet où là, effectivement, tu as mis le doigt sur quelque chose que j'ai été obligé de laisser de côté dans mon propos et qui est évidemment très important et très important pour Aristote et qui fait la valeur, je crois, d'Aristote pour nous, c'est l'ordre politique comme cadre et mesure de la diversité des biens, c'est-à-dire bon, les vies humaines, les hommes désirent des biens différents, parfois incompatibles, en tout cas difficiles à commensurer, et donc il y a une délibération qui recherche une mesure commune pour faire tenir le plus possible de biens de manière compatible dans la cité. Voilà. Et en termes très généraux, les biens sont l'agréable, l'utile et le noble. Bon. Mais c'est là quand même qu'une certaine rupture avec ce qui a suivi est perceptible, bien sûr, et où l'on a le droit de juger qu'on a perdu quelque chose d'important en perdant...
— Mais c'est pas de notre faute.
— Non mais si déjà tu concèdes qu'on a perdu quelque chose d'important, c'est important... parce que ça veut dire que l'État moderne, gloire et honneur à Thomas Hobbes, bien sûr, il a conçu quelque chose de prodigieux, d'admirable. Il a trouvé une solution qui dure depuis la moitié du XVIIe siècle. Bon, simplement, ça a été payé d'un prix très lourd. Et on dit en général que ce prix... c'est le prix de l'oppression de l'État, le poids de l'État, l'État qui fait la guerre, toutes choses qui sont parfaitement défendables. Même l'État qui fait la guerre, c'est aussi l'État qui a fait la paix, comme tu le rappelais à propos des guerres de religion. Donc l'évaluation de l'État moderne, c'est une grande question historique et politique, historique au sens ancien, si je peux dire. D'évaluation du bien que cela a été et du mal qui a accompagné ce bien. Mais il est clair quand même que le type de pensée que Hobbes a mis en œuvre de façon tellement productive a simplifié et, pour ainsi dire, exproprié la réflexion sur l'action. Parce que là où il y avait un agent... qui allait à la recherche du bien en choisissant le plus rationnellement possible, étant éduqué par une communauté de délibération, Hobbes a postulé, comme tu sais, une quantité de pouvoir, un désir de vivre que l'État se chargeait de laisser libre de chercher son bien selon l'idée qu'il s'en fait. Alors, d'une part, cela nous a sauvés. Cela a préservé la paix, largement. En tout cas, cela a répondu à un certain problème, très important. Une solution qu'on peut dire à la fois, les deux sont rarement compatibles, mais à la fois élégante et brutale, ou brutale et élégante à la fois. C'est ce qui caractérise Hobbes. Mais en même temps, on a, rendu structurellement inutile d'une certaine façon, ou déplacer la réflexion sur les vertus cardinales et sur la vie pratique, parce que l'action est subsumée sous d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'action. Dire, bon, l'action légitime, c'est l'action du représentant légitime. Bon, d'accord, donc c'est la représentation. Mais qu'est-ce que la bonne action, l'action prudente, l'action juste ? Le fait que l'action soit conduite par le représentant légitime ou par l'instance légitime ou par le souverain légitime laisse entièrement de côté la question du contenu de l'action. De même, dire que telle action est appartient aux droits de l'homme, c'est très bien. C'est certainement très important que l'État préserve le plus possible de droits, mais le fait qu'une action soit, découle ou appartienne à la rubrique des actions qui entrent dans les droits de l'homme ne dit pas grand-chose sur les caractères de l'action.
Mais donc, nous sommes d'accord.
Oui, mais donc je pense que ceci a des conséquences, selon les circonstances historiques, ceci a des conséquences plus ou moins, notre difficulté à penser l'action a des conséquences plus ou moins dommageables suivant les circonstances historiques. Or, il me semble que, quelles que soient toutes ces faiblesses, l'ordre étatico-national ou stato-national, conserver suffisamment d'éléments, tu as parlé aussi de la dépendance du passé, tant de choses étaient acquises dans l'ordre politique traditionnel que, au fond, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme juin 40, le besoin de prudence des acteurs n'était pas tellement demandé. La haute prudence des grands acteurs politiques. Et ma thèse, s'il y en a une, c'est qu'aujourd'hui, les grands mécanismes qui ont été élaborés par Hobbes ne nous sont plus très, très utiles parce que nous sommes entrés dans une ère où nous allons devoir prendre de grandes décisions qui dépendent d'une prudence dont nous avons perdu l'habitude et la notion. Et s'agissant de l'Europe, je crois qu'en effet, nous ne mesurons pas à quel point nous avons devant nous ce que Nietzsche appelait une question de grande politique, c'est-à-dire une délibération la plus vaste possible sur le genre de communauté de délibération et d'action que nous pensons fonder. Et là, je crois que la science moderne, là, vraiment, de nous... La science de l'histoire et la philosophie des droits, pour cette grande question qui est devant nous, ne nous aide pas beaucoup.
Ça, je le maintiens. Tu penses... C'est l'inverse de Tocqueville. Tu penses que pour un monde nouveau, il faut une science politique ancienne.
Mais parce que, pour moi, elle n'est pas ancienne. C'est aussi simple que ça.
Mais elle est très bien comme elle est, par ailleurs. Moi, j'ai rien dit contre Aristote. Hein. J'ai dit simplement que ta religion a rendu les choses impossibles. Mais enfin, bon.
Très difficile. Très difficile ne veut pas dire impossible.
Oui,
c'est la différence. Tu es moderne, tu passes de très difficile à impossible. Et moi, je distingue entre très difficile et impossible.
Bah, disons que les modernes ont été assez habiles pour que ça soit finalement possible. Mais ils ont eu bien du mérite. Bon, on vous empêche de parler, alors.
Vous avez tellement bien respecté et rempli mon devoir, mon souhait, que j'aimerais juste demander à Alain Renaud de dire des choses très importantes pour comme ça... Merci,
je remercie
Alain Renaud pour avoir accepté de compléter notre tableau.
Merci, moi aussi je vous remercie beaucoup pour gagner du temps. Je vais aussi faire un bilan très, très rapide des accords et désaccords, évidemment. non sans avoir rappelé qu'il y a à peu près un an, je vous avais invité dans mon séminaire à la Sorbonne et qu'après une discussion qui avait été à la fois franche et courtoise, vous aviez caractérisé la relation entre nos parcours comme une espèce de relation de parallélisme. Et j'avais acquiescé à cette détermination parce que, d'une certaine façon, c'est très bien les parallèles. C'est-à-dire, d'un côté, ça ne se rencontre pas, ça ne s'entrecroise pas, etc. Mais d'un autre côté, ça va quand même dans le même sens et ça ne s'écarte pas non plus les unes des autres. Donc là, personnellement, la relation de parallélisme me convenait tout à fait. Et alors, du coup, j'étais très frappé en lisant le texte que, voyez, que vous venez de prononcer, parce que j'y ai trouvé plus de rapprochement, si vous voulez, que de distance. Donc, ça a brouillé un peu, pour moi, pour un moment, l'image du parallélisme. Oui, c'est des parallèles avec une forme de convergence, mais qui ne se rejoindront pas. Donc, je voudrais juste dire deux mots sur ce thème-là. Moi, j'ai deux convergences. Je vois deux convergences entre certains aspects de votre propos d'aujourd'hui et ce que je fais actuellement. Et puis, deux espaces d'interrogation. Donc, je vais très vite, plus vite possible, ce qui n'est pas entièrement simple. D'abord, je partage tout à fait votre désignation, jusque dans la terminologie, de l'objet du questionnement. De la science politique, de la philosophie politique, enfin, de ce questionnement, en termes de détermination d'agenda, dont la délibération s'ancre dans des circonstances, des situations, des contextes particuliers, irréductibles les uns aux autres, déterminés. Personnellement, juste un mot là-dessus, j'y suis venu pour ma part de plus en plus depuis 2 ou 3 ans, à la faveur de recherches en cours sur les injustices globales les plus extrêmes. Un mot suffira pour symboliser la chose, et l'idée, c'est celui de Haïti, où, en ayant fait l'expérience par 2 fois, dont 1 fois cette année, je trouve que c'est typiquement le genre de situation où, pour un philosophe politique du type de celui que j'essaye d'être, c'est-à-dire un philosophe kantiano, haronien, rawlsien, l'affrontement avec les inégalités les plus extrêmes auxquelles on se trouve confronté fait apparaître à la fois Philippe a fait allusion à la boutade de Peggy, la difficulté des philosophes de ce type à être en prise sur le réel, et aussi l'impossibilité pour un philosophe néanmoins sincère de ne pas se poser dans des situations de ce type la question de ce qu'il faut faire et de radicaliser encore la question des choses à faire ou des actions à mener, de la radicaliser par la considération dans des situations aussi extrêmes ou aussi extrémisées, la considération des priorités à établir entre les agendas. Donc je suis embarqué dans une démarche qui, de ce point de vue-là ou par ce biais-là, recoupe votre détermination donc où j'ai reconnu celle qui se construit pour moi de notre type de discours et de réflexion comme devant procéder à quelque chose comme un éclairage ou un éclairement des agendas dans des situations déterminées, irréductibles les unes aux autres. Je me suis retrouvé, disons, en Haïti un peu comme, sinon les lacédémoniens, du moins comme les Athéniens, réfléchissant sur les actions à mener pour les sites ou avec eux. Donc je comprends tout à fait bien et partage votre description de ce point de vue. Et je vous ferai très volontiers le cadeau philosophique, selon un geste qui est un peu de circonstance dans cette réunion, de convenir que dans ce type de situation ou dans ce type de contexte extrême, il est très difficile de ne pas transgresser l'interdit kantien à l'égard d'une philosophie partant des données. Et il est très difficile également de ne pas renoncer à la conviction qu'une philosophie digne de ce nom doit être une philosophie des principes, dont je peux témoigner qu'il s'agisse des principes kantiens de la raison pure pratique ou des principes rawlsiens et post-rawlsiens de justice, il est en tout état de cause patent pour moi et pour ceux qui étaient avec moi dans ces expérimentations de percevoir à quel point par eux-mêmes de tels principes ne disent presque rien des situations de ce genre, celle de Haïti ou d'autres Haïti, constat qui conduit alors à s'interroger dans des termes qui sont aussi devenus pour moi les miens sur ce que le philosophe fait en général quand il s'abandonne à sa passion des principes. Donc il y a là pour moi une dimension de rapprochement inattendu, disons, qui consiste au fond en ceci, que ce désaccord que j'entretiens désormais avec une partie de moi-même, philosophiquement parlant, me rapproche de ce que vous soutenez. Voilà, donc c'est un aveu, puisque nous sommes entre nous, autant dire ce point. Alors ça ne signifie pas pour autant, je vais dire cinq minutes, parler cinq minutes sur le second versant, ça ne signifie pas pour autant que, ayant pris des distances avec mon passé philosophique, je me trouve voué, selon moi, à repartir de ce que vous lisez chez Aristote. Mais, dire juste un mot. Ce que je voulais dire sur ce point, c'est qu'il y aurait au fond un deuxième élément de rapprochement, mais qui ne va pas si loin que le premier dans la rubrique, qui tient au fait que, à mon sens, dans la démarche que vous défendez, que vous pratiquez, vous ne pouvez pas ne pas éprouver, vous aussi, le besoin, quand vous vous employez ou quand vous vous représentez le philosophe comme s'employant à repérer des agendas dans une situation, vous ne pouvez pas ne pas vous reporter à des référents, des références, un référentiel irréductible au contexte ou dans votre langage, aux circonstances déterminées dans lesquelles nous délibérons sur les choses à faire. Alors comme nous ne sommes pas, je crois, ni vous ni moi, pragmatistes, nous ne pensons pas que c'est la situation elle-même, le contexte lui-même ou les circonstances elles-mêmes qui contiennent en lui ou en elle, en eux, les normes des agendas à déterminer. Et du coup, je crois, nous pourrions penser, nous pensons, je crois, l'un, sinon comme l'autre, du moins parallèlement à l'autre, que le philosophe qui s'emploie à établir des agendas dans telle ou telle circonstance déterminée, a besoin de ce que j'appelais à l'instant un référentiel irréductible à ces circonstances, qu'on le désigne comme transcendantal ou non, peu importe. Il me semble que vous désignez un tel référentiel, vous le trouvez pour votre part, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans ce que vous désignez, par référence à Aristote, comme une structure cohérente et stable, disponible dans toutes les sphères de l'action humaine, formée par donc les quatre vertus cardinales que vous avez rappelées, lesquelles constituent, dites-vous, une structure de base, donc, et identifient une humanité commune, une espèce partageant une nature commune. Là, je crois, est le point décisif, celui sur lequel je voudrais très vite terminer en disant ce qui, à cet égard, constitue pour moi matière dans ce que vous soutenez à interrogation. Ma question serait de savoir si ce référentiel-là, comment dire ça en une seule phrase, est suffisamment déterminé et déterminant pour éclairer vraiment le choix des agendas dans tel contexte et leur priorisation, les uns par rapport aux autres. Alors il faudrait voir si l'on avait le temps, cela... Ce serait d'ailleurs, à mon sens, passionnant, à l'épreuve de circonstances ou de contextes où l'établissement des agendas apparaîtrait ou non déterminable à partir de là, et dans quelles proportions et selon quelles priorités, pour être, si je puis dire, vraiment opératoire, opérationnel, pour que nous ayons des mains en prise sur ce réel-là. Il faudrait faire cette expérimentation. Je ne suis pas convaincu que ce soit une évidence, notamment parce que, et c'est le point qui m'a le plus, qui a le plus attiré mon attention dans votre conférence et dans votre texte, vous dites qu'à partir du moment où il y a des hommes qui agissent, je vous cite, la recherche des moyens se fait, alors d'accord sur la question des fins qu'on va mettre entre parenthèses, la recherche des moyens se fait selon un certain dosage du courage, de la tempérance, de la justice et de la prudence, selon un certain dosage des quatre dimensions d'excellence, qui sont, d'une certaine façon, des critères de l'excellence de ce qu'il faut choisir. Là-dessus, il n'y a pas de raison de se dire en désaccord, même si l'idiome qu'on utilise n'est pas le même, mais ça n'a aucune espèce d'importance, ça n'empêche pas d'être d'accord. La question, pour moi, est plutôt celle de savoir si faire surgir un certain dosage, pour reprendre votre expression, comme répondant à la question de la détermination des moyens, est suffisant, donne prise sur le réel. Faire surgir un certain dosage, je dirais sans doute, des quatre vertus, puisque c'est elle qui constitue votre référentiel, mais peu importe ce point, faire surgir un certain dosage, une certaine combinaison, mais lequel à chaque fois dans le contexte de telle ou telle situation déterminée. Ma question serait donc de savoir si l'intervention du philosophe politique, réfléchissant lui-même à ce qu'il faut faire à partir des données de telle et telle situation, et non pas à partir des principes, en ajoutant des quantas d'empiricité sur le mode kantien classique. Ma question serait de savoir si l'intervention du philosophe politique procédant comme cela, à partir des données de telle situation, peut se limiter à identifier la détermination des choses à faire et de la priorité de certains agendas les uns par rapport aux autres, car c'est ça le vrai problème dans les situations, peut se faire exclusivement dans les termes d'un certain dosage des exigences ou des composantes de l'excellence définies sous la forme des quatre vertus cardinales. Auquel cas, pour terminer, je suis désolé de devoir dire les choses un peu plus brutalement que je ne le souhaitais, mais c'est le raccourcissement qui y contraint. Je me demande si la philosophie politique recentrée sur la question des agendas, recentrement que je partage, ne se terminerait pas, si on la pratique ainsi, pour ainsi dire, presque aussitôt commencée. C'est-à-dire juste après avoir commencé, dans l'indication que la détermination des agendas doit être recherchée dans le principe d'un dosage en général, des quatre exigences, dans le principe d'un dosage en général, mais je dirais pas plus, pas davantage, pas moins, pas plus, mais oui, pas davantage. Ce qui ferait qu'on pourrait se demander si, même ainsi réorienté, à partir de la question des agendas, la philosophie politique ne demeure pas, ne risque pas de demeurer une philosophie de principe, de surplomb, se bornant à mettre en avant, pardonnez-moi de le dire comme cela, le principe. Et nous sommes toujours philosophes preneurs de mise en avant de principes, mais à mettre seulement en avant le principe d'un dosage des vertus, sans contribuer en rien pour autant à énoncer une quelconque liste déterminée des agendas dans telle circonstance ou dans tel contexte. Je voudrais vous demander si c'est votre position ou si il ne conviendrait pas plutôt que j'essaye de le penser et de le pratiquer. Mais ce n'est pas facile, je suis content de ne pas avoir à répondre à la question que je vous pose aujourd'hui, s'il ne conviendrait pas de faire en sorte ou de dire et de prendre au sérieux que l'objectif à atteindre, ce n'est pas le dosage comme tel, mais bien ce qui fait qu'un dosage déterminé apparaît après délibération comme le meilleur. Excusez-moi d'arrêter, mais voilà, il est...
La question est parfaitement pertinente, nécessaire. Je dirais simplement que la science politique d'Aristote comprend l'éthique à Nicomaque et la politique. Ce que j'ai dit, pour l'essentiel, reposait sur l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire l'analyse de l'action. La description la plus complète possible de la description et de l'action. La science politique, telle qu'elle est dans la politique, telle qu'elle est formulée dans les politiques ou la politique d'Aristote, répondrait, je crois, à votre question, ou plutôt donne un exemple de la manière dont Aristote répondait à votre question. Pour reprendre l'exemple des Scythes et des Spartiates, on voit bien qu'Aristote s'interroge sur les priorités. Et il trouve que les Spartiates, ils ont des mérites, certainement, mais au fond, ils ne connaissent qu'une vertu, c'est la vertu militaire. Ils ne connaissent qu'une éducation, c'est l'éducation de la force physique, avec un petit peu de musique pour les calmer. Et il trouve que ce n'est pas suffisant. Il trouve que ce n'est pas suffisant, qu'il y a des arts de la paix et qu'une société... plus accompli réclame, disons, une plus large palette de biens humains et de vertus. Bon, alors, ce que nous aurions à faire avec, j'ai employé le terme de dosage, on peut en trouver un meilleur, mais c'est à chaque fois, dans chaque situation, que nous avons à faire ce dosage qui n'est pas arbitraire et qu'on peut en effet formuler dans les termes généraux, de même qu'en régime politique, le petit nombre et le grand nombre, la justice et la modération, ou bien donc les arts de la paix et les arts de la guerre, dans des circonstances toujours changeantes, ce dosage reste à faire. Et là, évidemment, la question est-ce qu'il n'y a qu'une seule réponse ? Non, bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose qui est des possibles ignorés que l'on ne sait pas si certains vont les ouvrir ou pas. Donc évidemment, on peut pas donner une réponse. Nous sommes en un certain sens désireux. Nous attendons l'agent qui accomplira l'action courageuse inédite ou qui montrera une prudence, c'est-à-dire une capacité de rendre possible des actions possibles et utiles, des actions qui paraissaient hors de portée. Donc, évidemment, le philosophe là décrit le mécanisme de l'action. Il indique que le propos est de parvenir au bon dosage ou au bon mélange des vertus, qui est le bon mélange du régime.
Mais il ne le fait pas. Mais il ne l'effectue pas.
Il ne le fait pas parce que précisément il n'est pas un homme d'action. Il est celui qui conseille, qui éclaire l'homme d'action, et il est à la merci de l'apparition ou non de Périclès. Parce que, au fond, la prudence, le philosophe ne la trouve pas en lui-même, il ne la trouve pas dans une analyse des notions, il ne la trouve pas dans une analyse d'un individu humain qui se réfléchit sur lui-même, que sais-je. Il se trouve que certains hommes ont montré de telles capacités que, eh bien, quand on dit qu'est-ce que le phronimos, qu'est-ce que l'homme prudent, tout le monde pense à Périclès. Et donc, en ce sens, oui, le philosophe politique admet sa dépendance par rapport aux réalités, aux grandeurs politiques.
Donc, je vous remercie parce que je n'avais plus parlé. Donc, je vous remercie vraiment. De même, je remercie les participants à cette table ronde, vraiment, et qu'avec sa générosité, c'est pas encore fini, hein, c'est moi qui dis au revoir, mais il y a encore un moment. Mais avec sa générosité coutumière, Bruno Crescenti a dit que ces colloques ont été un moment important de la vie de notre école. Nous espérons, avec Jean-Vincent Doumois, que de proposer une réflexion très sérieuse, d'abord une question sérieuse sur la vie humaine, et surtout de donner l'idée de ce qui était cette expérience très précieuse qui était le séminaire de Pierre Manin, pour lequel je les remercie encore. Et donc, vous remerciant pour avoir contribué avec vos questions et votre présence, je donne la parole maintenant à Jean-Vincent Olindre. Merci.
Bonsoir, la journée a été très longue et je serai très, très bref. Ce n'est pas une conclusion hein, ce soir. Puisque précisément nous avons conçu ce colloque comme un moyen de poursuivre et de formaliser la discussion qui a commencé il y a plus de 20 ans maintenant dans le séminaire du vendredi matin. Nombreux sont ceux qui y assistent régulièrement. Continuer cette discussion, et donc l'idée de ce colloque, c'était de non seulement de saluer notre ami, notre professeur, mais aussi de montrer à quel point l'œuvre est féconde. Je crois que, jamais très objectif, surtout quand on est organisateur, mais ce colloque a été de ce point de vue-là très réussi. Et je voudrais simplement adresser au nom des organisateurs des remerciements très, très profonds. D'abord au Centre Rémoiron. J'ai fait ma thèse ici, je suis pas très objectif, mais je connais peu de lieux dans la vie intellectuelle et académique française, où on peut avoir des colloques comme celui-ci. Donc merci à toi, Olivier. Merci à Olivier Remeau, directeur du Centre Raymond Aron, d'avoir rendu possible cet événement. Merci à ceux qui font le Centre Raymond Aron. Je vois Elisabeth Dutard-Michaud qui est au fond de la salle, qui nous a énormément aidés, Nicolette Delanne également. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais mon cœur est très reconnaissant, et celui de Giulio également. Merci à toi, Giulio. Cher ami, comme tu le dis souvent, Pierre a, parmi ses nombreuses vertus, a la vertu de l'amitié, et cette vertu qui est de créer des amitiés, l'amitié du séminaire et l'amitié entre nous, qui est née grâce à vous, Pierre. J'arrive bientôt au remerciement vous concernant. Merci à nos amis américains. Ralph Hancock a pris la parole. Merci beaucoup d'avoir traversé l'Atlantique pour participer à ce colloque et pour nous avoir aidés à l'organiser. Merci au professeur Mahonnet qui était là et qui nous a aidés à organiser, qui a soutenu ce colloque. Et au professeur Mansfield qui est, je ne le vois pas, mais en tout cas il était parmi nous, il est là. Merci à vous, voilà, d'avoir traversé l'Atlantique pour nous écouter, pour participer à ce colloque. Et je crois que nous sommes tous très sensibles à cette amitié franco-américaine, et évidemment amitié aussi franco-québécoise, puisque nombreux sont les Québécois qui étaient là, qui ont participé. Je vois Daniel Tanguay, Marc Chevrier et beaucoup d'autres qui sont là par la pensée. Alors, évidemment, c'est vous qu'on honore, Pierre, ce soir. C'est vous qu'on honore, Pierre, ce soir. Et évidemment, si nous sommes si nombreux ce soir, c'est pour vous remercier pour tout ce que vous avez apporté à l'École des hautes études, bien sûr, aux chercheurs qui ont été formés grâce à vous, tous ces doctorants, il y en a encore qui ont été formés grâce à vous. Il a beaucoup été question dans votre conclusion, votre leçon, et dans la discussion de la confiance. Nous avons perdu la confiance. Moi, je peux dire une chose, c'est que Pierre, vous nous avez donné confiance. Vous nous donnez confiance dans la science, dans l'humanité, par vos vertus, par votre science aussi. Et parmi toutes les qualités qui sont les vôtres, je pense que cette idée que vous nous donnez confiance est quelque chose de fondamental, parce que sinon nous ne serions pas là à nous poser la question « quelle science du politique ?». Donc j'ai envie de retenir cette vertu ce soir. Je ne sais pas si c'est une vertu, la confiance, mais en tous les cas, la confiance ne supplantera jamais la prudence, mais en tous les cas, il me semble qu'il y a des raisons d'espérer pour cette raison. Alors, je l'ai dit au début, ça fait un an et demi qu'on organise ce colloque, et on s'est dit, voilà, Pierre arrête son séminaire, il prend entre guillemets sa retraite, mais nous le savons bien, il travaille et il continuera de travailler. La preuve, il vient de sortir un livre sur Montaigne. Et beaucoup d'autres projets sont en cours. Je ne sais pas s'il y aura un Montesquieu, mais il me semble qu'un Rousseau ou un Pascal sont dans les esprits. Et on s'est dit, voilà, on ne veut pas que ce colloque soit un colloque de clôture, parce qu'évidemment, l'œuvre continue. Donc on s'est dit, on va faire un livre. On va faire un livre, parce qu'après tout, c'est par les livres que vous vous adressez à nous et que parlons, nous discutons, nous conversons avec vous, avec le séminaire bien sûr aussi. Et en fait, on en a fait deux. Deux livres. Un livre physique. Je vais donner la parole bientôt au président qui va vous le remettre. Mais un livre aussi rendu par, alors je ne sais pas si c'est la science politique moderne ou postmoderne, mais les joies de l'Internet ont permis de faire un deuxième livre qui a été rendu possible par l'Association des Amis de la Mention Études Politiques. Et donc, même si ce livre n'est pas là physiquement, vous avez vu qu'il y a un cahier qui a circulé, et donc ce livre va circuler par ce biais-là. Pour remettre le livre physique, j'appelle donc le président de l'École des études en sciences sociales, M. Pierre-Cyril Auqueur, qui est venu, qui a tenu à être présent parmi nous. Et pour remettre un autre présent, les étudiants, par la voix de Violaine Ricard, qui va dire un mot également. Je donne d'abord la parole à Violaine et ensuite au président. Au nom des doctorants et ensuite au nom de la discussion.
Alors, je suis un des derniers étudiants de Pierre Manant, dernière à tout point de vue d'ailleurs, et donc je suis bien évidemment embarrassée de voir ici vous manifester toute la reconnaissance de générations d'étudiants que vous avez entraînés, voire parfois enrôlés dans votre aventure intellectuelle. Simplement, donc, pardon, je suis un peu émue. Pardon.
Bon, cher Pierre Manant, c'est un grand plaisir et aussi une certaine émotion pour moi qui, étudiant, lisais vos premiers livres, de vous remercier pour votre carrière dans cette école en vous remettant ce livre. Je vais vous le donner dans un instant, mais je vais vous faire attendre une petite minute. Bon, j'ai malheureusement pas pu assister à ce colloque. J'ai été retenu par la bureaucratie technocratique qui malheureusement n'obéit pas assez aux procédures de délibération politique que vous nous avez enseignées. Je ne peux donc vous rejoindre qu'aujourd'hui. Il y a quand même quelques personnes dans ceux qui nous gouvernent qui ont une pensée aussi pour ce que vous faites dans cette école depuis longtemps. Il y a 15 jours, nous avons reçu ici une conférence sur les savoirs actuels des sciences sociales sur la justice, qui était ouverte par la ministre, Madame Taubira. Et pour recevoir ce colloque, nous avons dû déplacer le séminaire de Pierre Manant. Et je vous avoue que ça n'est pas sans une certaine difficulté pour moi, parce que où peut-il faire ce séminaire ailleurs que ici, où il y a assez de place, dans cet amphi-furet, qui est aussi dans cette tradition intellectuelle, qui témoigne de cette tradition intellectuelle. Et quand je l'ai dit à Madame Taubira, elle m'a dit « Ah, mais ce n'est pas possible que pour un colloque, qui était destiné au cadre du ministère de la Justice, dans lequel les chercheurs exposaient les travaux récents, ah, il m'a dit, ça n'est pas normal qu'on déplace le séminaire de Pierre Manant pour ça. Je lui ai dit, bon, je suis désolé, mais vous en saurez au moins qu'il y a au moins une personne dans ce gouvernement qui a le respect pour vous que votre œuvre mérite. Voilà. Donc évidemment, un de mes problèmes comme président de l'école, c'est à qui va-t-on assigner le créneau du vendredi matin, 11h, quand Pierre Manant ne donnera plus ce séminaire. Bon. C'est une question, nous allons peut-être le mettre aux enchères, parce que ce serait une manière de renflouer les caisses de l'école, mais c'est que seul un économiste peut avoir une pensée pareille, évidemment. Je vous prie de m'en excuser, je ne le ferai pas, rassurez-vous. Donc je voulais simplement vous remercier au nom de tous vos étudiants, évidemment, de tous vos anciens étudiants qui sont maintenant des collègues, de tous vos collègues de l'école. Vous avez développé ici une tradition qui remonte à Raymond Aron, dont vous avez été vous-même un proche, mais une tradition qui remonte bien avant, qui remonte à Machiavel, Hobbes et Rousseau, qui remonte à Montaigne, qui remonte à Saint-Augustin. Parce que le livre qui m'a le plus marqué, c'est effectivement La Cité de l'Homme. Cette tradition qui est entrée dans cette école à un moment où elle n'était pas, où il n'était pas aisé de l'y défendre, je crois, elle y a toujours vécu en tension avec une partie des sciences sociales de l'école, et je crois que c'est une tension qui est à la fois sans doute souvent été inconfortable pour vous, et qui en même temps, je l'espère, a été féconde et a contribué au développement de votre œuvre. Donc je vais évidemment rien dire moi-même sur votre œuvre après toutes les personnes qui ont parlé et qu'en plus je n'ai pas pu entendre. Je vais donc simplement vous remettre ce livre en remarquant simplement que sur la couverture, il y a la déclaration d'indépendance des États-Unis, et je pense que vous serez sensible à ce fait. Donc, au nom de tous vos élèves et de l'école, plaisir de vous remettre ce livre avec tous mes remerciements de la part de notre institut.
simplement, puisque le temps des remerciements est venu, puisque le temps des remerciements est venu, et non pas des hommages, nous espérons bien vous avoir encore avoir l'occasion de profiter de votre enseignement et de vos conseils. Je ne m'appartiens pas non plus de faire votre éloge, puisque votre humilité empêche que l'on charge publiquement sur vos épaules toutes les vertus que nous vous connaissons. Simplement, je suis chargée de vous remettre ce petit rien qui est garanti à vie, comme notre reconnaissance l'est aussi. Reconnaissance envers un professeur exigeant et un tuteur toujours bienveillant. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de tout ce que vous avez fait.
Je crois qu'il faut que je dise quelque chose. Parmi toutes les choses bienveillantes qu'a dites Pierre-Cyril Auqueur, notre président, que je remercie d'être avec nous ce soir, une seule chose est inexacte. Il a dit que ma situation avait pu être inconfortable à tel ou tel moment. Alors, est-ce mon manque de discernement ou de sensibilité ? Je ne me suis jamais mal senti à l'école. Je me suis au contraire toujours senti très bien. Et c'est la première chose que je voudrais dire. C'est qu'il y a peu d'institutions universitaires ou de recherche dans le monde, je crois, où l'on ait autant de vraies libertés que dans cette école et où aussi les relations entre les collègues soient marquées autant, je dirais, par la bienveillance et la simplicité. Et j'ai mesuré au long de ces années quelle chance j'avais eu d'appartenir à une institution où, au fond, on m'a permis, semaine après semaine, de déguiser mon bec, en quelque sorte, à la critique des sciences sociales, y compris de celles même que l'on enseigne dans cette maison. Et cet exemple de liberté, je crois, mérite d'être préservé, encouragé. Peut-être est-il aujourd'hui plus qu'à d'autres moments menacé. Et donc, mes sentiments pour l'école sont marqués à la fois par une reconnaissance et une amitié justifiée. Je pensais bien que j'aurais à dire quelque chose. J'ai un peu réfléchi avant. Et il y avait tellement de choses à dire que j'ai renoncé à réfléchir et à préparer quelque chose. Alors, après avoir remercié l'école, je vois parmi vous, au fond, des membres de tous ces groupes qui font ma vie. Le séminaire de Raymond Aron, la revue Contrepoint, la revue Commentaire, ce séminaire-ci. Et Jean-Vincent parlait de la confiance. Je crois que s'il y a quelque chose de commun dans toutes ces expériences, dans tous ces groupes de pensée, de réflexion et d'amitié, c'est cette confiance dans ce que l'on peut faire. C'est l'idée qu'il ne faut pas examiner la probabilité du succès, mais il faut considérer l'intérêt de la chose à faire et le bien de la chose à faire. Et que c'est comme ça que l'on part dans une action, que ce soit la fondation d'une revue, cher Jean-Claude, ou que ce soit un travail de séminaire. Il faut partir avec confiance en y consacrant le plus de vertus, de talents que l'on peut, pas tout simplement parce que c'est la chose à faire, c'est l'agendum à faire, et la considération de la probabilité du succès ne vient qu'après. Voilà ce que j'ai envie de dire, et j'ai envie aussi de remercier ici les directeurs successifs du Centre Aron, y compris le premier directeur au cours de mon enseignement, c'est-à-dire Pierre Rosan-Vallon, et jusqu'à Olivier Remeau aujourd'hui, Patrice Guénifet, qui je crois est là, et Philippe Urfalino. Et je voudrais aussi, je sais que disant cela, je réponds au désir de beaucoup d'entre vous qui ont été enseignants, qui ont été étudiants, c'est remercier quelqu'un qui qui n'est plus parmi nous et qui, en un sens, a été l'âme du Centre Aron. C'est Madame Marie-Madeleine Pacaud qui a contribué d'une façon mystérieuse, mais très sensible, à la vie et à la durée du Centre Aron. Voilà ce que je peux dire. Sinon, la seule chose que je peux ajouter, c'est que je savais l'amitié de Giulio, de Jean-Vincent, de vous tous, mais si j'ose dire, je n'avais pas mesuré votre générosité et je ne sais pas comment proportionner mes paroles à cette générosité, et donc je me tais.